Si l'on prélève des plantes aquatiques d'eau douce et la faune qui les peuple, il est aisé d'y découvrir des représentants d'un groupe d'annélides, des iridinés, couramment appelés les sangsues. Voici par exemple Piscicola, qui peut atteindre 4 cm de longueur. Son corps cylindrique présente une pigmentation aux motifs régulièrement répétés qui souligne la métamérisation interne. Il est muni d'une ventouse à chaque extrémité, l'antérieure ou buccale portant 2 paires d'yeux. Ces ventouses lui permettent d'adhérer aussi bien au support qu'à la surface de l'eau et de se déplacer en arpentant. Elle peut se laisser couler sans mouvement, mais elle nage aussi en ondulant dans un plan vertical. On peut trouver sur les corps flottants, comme ces feuilles de nénuphar, d'autres sangsues beaucoup plus abondantes que la précédente. Ici, Herpopdella. Sur la ventouse buccale, des yeux en plus grand nombre, 4 en avant du bord antérieur, 2 de chaque côté du troisième segment. Sa pigmentation dessine une sorte de réseau sur tout le corps. Au-dessus de la ventouse terminale, l'anus blanchâtre. C'est en rampant qu'elle se déplace, tandis que sa ventouse antérieure explore avant de se fixer. Elle nage également. Par contre, cette autre espèce en est incapable. Dérangée, elle se laisse tomber, roulée en boule. Sur le fond, elle progresse en arpentant. Il s'agit de la très commune Glossifonia complanata. Elle porte généralement 2 lignes sombres et, disposées sur 2 rangs, 3 paires d'yeux. Beaucoup d'espèces se rencontrent sur les corps immergés, comme sur cette coquille d'anodonte où s'agitent plusieurs Helopdella, sangsues particulièrement fréquentes dans toutes les eaux. De petite taille, 25 mm en extension, elle se déplace avec agilité dans les plantes aquatiques. Sa petite plaque en losange jaunâtre la rend facile à reconnaître. Elle n'a que 2 yeux. Sous les pierres, on peut encore rencontrer, mais plus rarement, cette pteromyzone. Elle est caractérisée par ses 4 paires d'yeux sur 2 lignes paramédianes. Cependant, toutes les sangsues ne vivent pas seulement dans l'eau. Certaines sont amphibies. On peut les trouver sous les pierres, comme Hemopis, ou dans la vase. De grande taille et très sombre, elle rampe rapidement. Elle nage aussi, vigoureusement. Et peut s'enfouir. Une importante musculature pariétale permet des variations considérables de la longueur du corps. La plupart de ces sangsues peuvent être recherchées sur leur hôte si elles sont parasites. C'est la seule façon de trouver les espèces marines, généralement sur des poissons osseux ou cartilagineux, comme cette torpille qui porte 3 sangsues du genre Branchellion. D'assez grande taille, 10 cm, cette sangsue diffère un peu des précédentes par l'existence d'expansions latérales foliacées à la base desquelles se trouvent des vésicules pulsatiles. La ventouse postérieure, très large, lui permet d'adhérer fortement à l'hôte qu'elle ne quitte jamais. Cette ventouse porte curieusement sur sa face ventrale une quantité de ventouses secondaires. En eau douce, nous retrouvons Piscicola sur un de ses hôtes, l'épinoche. Très sensible aux vibrations transmises par le milieu, ces Piscicola se mettent en position de chasse à l'approche d'un poisson, cette fois un carassin. C'est la sangsue du centre qui va se fixer. Solidement maintenue par sa ventouse postérieure, elle cherche l'endroit favorable pour implanter sa ventouse buccale. Pour prélever le sang, Piscicola enfonce dans les tissus de l'hôte sa trompe musculeuse. Fréquemment, un poisson véhicule plusieurs parasites. Quelques heures plus tard, gorgé de sang, Piscicola quitte son hôte et va digérer pendant 3 ou 4 jours. Mais le poisson réussit souvent à éviter son parasite. Il l'attaque même parfois. Les glossiphoniidés, ou clepsines, possèdent également une trompe, visible ici dans l'axe du tiers antérieur. Elles font partie, avec les piscicolidés, de l'ordre des sangsues à trompe, ou rhyncopdelles. Elles parasitent des hôtes très variés. Les canards, par exemple, s'infestent en barbotant avec de jeunes théromyzones qui, par les narines, ou par l'intérieur du bec, gagne les voies respiratoires supérieures. Une attaque massive de l'hôte peut provoquer sa mort par asphyxie ou spoliation sanguine. Une simple incision du bec permet alors de les retrouver gorgés de sang. D'autres glossiphoniidés attaquent des invertébrés, les crustacés par exemple, comme cette azelle. Ici, plusieurs Helopdella l'ont assailli et vont vider complètement la carapace de son contenu. Les mollusques gastéropodes paient également leur tribut aux sangsues. Cette limnée est victime de plusieurs glossiphonia. Une Herpopdella se joint au festin. Avec d'autres, elle arrache des fragments du mollusque grâce à des replis musculeux du pharynx. Cette disposition propre à l'ordre des pharyngobdelles en fait des prédateurs et non plus des parasites pour les invertébrés d'eau douce, les tubifex par exemple. Herpopdella en attrape un sous nos yeux. Fréquemment, Herpopdella ondule sur place, fixée par sa ventouse postérieure. Nous allons retrouver des parasites dans un autre groupe d'irudinés qui s'attaquent aux vertébrés. Sortant de l'abreuvoir, les bovins portent parfois, sur la patte, irudo, qui pourra prélever 6 à 10 fois son poids initial de sang, d'où son utilisation autrefois en médecine. Il lui faudra jusqu'à 6 mois pour digérer. Cette digestion s'opère grâce à l'action de bactéries symbiotiques. Les sécrétions déposées au niveau de la plaie maintiennent une hémorragie qui provoque une perte de sang supérieure au prélèvement. À défaut de mammifères, Irudo peut s'attaquer aux autres vertébrés, comme les grenouilles. La blessure en étoile à trois branches correspond aux incisions des mâchoires musculeuses pourvues d'une rangée de dents minuscules qui caractérise l'ordre des gnatobdèles. Dans ce groupe, Hemopis, aux mâchoires moins puissantes, est prédatrice de larves d'insectes. Et même d'autres sangsues, ici Herpopdella, qui se débat énergiquement, mais en vain. Les proies, absorbées tous les 2 ou 3 jours par Hemopis, représentent le 1/5 de son poids. Le facteur alimentaire conditionne pour une large part la répartition des iridinés et leur reproduction, qui a lieu pendant la bonne saison lorsque l'eau s'est réchauffée. À l'exception des gnatobdèles, la fécondation est indirecte et se fait au moyen de spermatozoïdes contenus dans des spermatophores implantés par le partenaire, généralement en un point quelconque du corps, ici en position dorsale chez Herpopdella. Sa forme est particulière à l'espèce. La fécondation de Piscicola commence par la recherche d'un partenaire. Première tentative. Parfois, l'accouplement est immédiat. Les parties antérieures s'enroulent l'une autour de l'autre. Les animaux restent parfaitement immobiles. Piscicola, comme toutes les iridinées, est hermaphrodite et la fécondation est croisée. Pendant les 10 minutes ou quelques heures que dure cet accouplement, se forme dans l'atrium génital mâle de chaque individu un spermatophore. Il est implanté sur le partenaire et chacun l'emportera au moment de la séparation. Ce spermatophore blanc est déposé ici dans une zone ventrale privilégiée appelée aire copulatrice. L'une des sangsues essaie de s'en débarrasser, mais il ne cède jamais. Les spermatozoïdes mettront quelques heures pour traverser les tissus du receveur et gagner les ovaires où a lieu la fécondation. Cette piscicola fécondée va rechercher un endroit favorable pour effectuer sa ponte. Fixée par ses 2 ventouses, elle tente de faire adhérer la sécrétion blanchâtre, peu visible encore, qui entoure le clitellum. L'adhésion acquise, elle lâche son point d'appui et roule sur son axe pour façonner la paroi du cocon qui entoure la région clitellienne ainsi nettement délimitée. Une partie des sécrétions des glandes qui débouchent à ce niveau forme la paroi de ce cocon. Une autre partie, liquide, déversée à l'intérieur, servira de nourriture à l'embryon. L'œuf unique, pondu dans ce cocon, est en effet dépourvu de vitellus. Le cocon achevé, une onde de gonflement se produit d'arrière en avant. Le clitellum se dégage d'abord, puis la région antérieure. À ce stade, le cocon a une longueur réduite de moitié. Il reprend spontanément sa forme en 30 à 40 secondes et mesure alors 1 mm environ. D'abord blanchâtre, il va brunir en quelques heures, comme en haut de l'image. Un léger ralenti permet de mieux revoir la dépose du cocon. Elle dure dans son ensemble 5 à 6 minutes. Chaque piscicola dépose quelques cocons en 2 ou 3 jours entre les prises de nourriture. Elle s'en éloigne sans leur accorder plus de soins. Les cocons sont fréquents sur les plantes aquatiques. Leur paroi épaisse présente des crêtes longitudinales caractéristiques. 2 à 3 semaines après, la jeune sangsue est visible par transparence dans le cocon et ne va pas tarder à éclore en faisant saillir d'abord une boucle du corps. Puis la ventouse antérieure. Et enfin, l'autre. Dès sa naissance, cette jeune sangsue de 4 à 5 mm, de morphologie identique à celle de l'adulte, va rechercher un poisson et prendre son premier repas. Les œufs vides conservent souvent, comme ici en haut à droite, l'opercule soulevé par le jeune. L'éclosion, qui dure en général moins d'une minute, peut présenter des difficultés au passage des ventouses. Un mois après, ayant mangé 4 ou 5 fois, elle sera capable de se reproduire. Chez les gnatopdèles, les cocons sont abandonnés dès leur formation dans la vase ou la terre humide, au-dessus du niveau de l'eau. Comme ce cocon d'hémopis recouvert d'un feutrage spongieux. De ce cocon sortiront de 6 à 16 jeunes. En extension, ces petites sangsues ont déjà 15 mm. En examinant des corps immergés ou des végétaux flottants, il est fréquent de rencontrer des cocons d'Herpopdella, ovales, lisses et aplatis. Ils peuvent contenir jusqu'à 15 embryons, ici 4, qui naîtront 3 à 7 semaines après la ponte. Les deux opercules sont nettement visibles. Le dépôt du cocon se fait comme chez Piscicola, mais dure 15 à 20 minutes. Dans ce cas, cependant, le parent n'abandonne pas son cocon aussitôt après le dépôt. Et avant de le quitter, il le façonne, l'aplatit, le fait adhérer par ses bords, en lubrifie la surface avec les sécrétions de sa ventouse antérieure. La nature de la paroi du cocon rappelle celle de la kératine. En plus de tous ces soins, certains individus, avant de quitter leur cocon, se placent au-dessus de lui et agitent l'eau. C'est cependant dans la famille des glossiphonidés que s'observent les aspects les plus originaux de la reproduction. Prenons par exemple cette belle sangsue, Hemiclepsis, parasite de poisson. Elle possède 10 paires de cécums gastriques et des chromatophores vivement colorés. La ventouse antérieure, cordiforme, porte 2 paires d'yeux. Les ovocytes sont tous au même stade et très riches en vitellus. Peu de temps avant la ponte, ils circulent constamment à l'intérieur des ovaires. Hemiclepsis pond en moyenne 80 œufs en une seule masse, alignés et déposés en plusieurs couches. Ils seront couvés pendant une semaine environ. À ce stade, l'embryon a développé dans la région antérieure un organe adhésif transitoire grâce auquel il se fixera aux parents qui va pouvoir se déplacer avec ses larves. Les larves utilisent le vitellus contenu dans la paroi du tube digestif, visible ici par transparence. Les jeunes épuisent leurs réserves. Leurs parents les emportent, maintenant accrochés par la ventouse postérieure, à la recherche d'un premier hôte, un poisson. Sur les tiges immergées de plantes aquatiques, il n'est pas rare de rencontrer Glossiphonia couvant sa ponte. Les œufs, dont le nombre varie entre 50 et 220, sont disposés dans des cocons à parois minces, séparés les uns des autres. Les mouvements du corps, comme ceux de cette sangsue à l'arrière-plan, assurent le renouvellement de l'eau autour des œufs. Les larves visibles au premier plan se sont fixées aux parents 5 à 6 jours après la ponte par leur organe adhésif antérieur. Sur ce stade plus évolué, le tube digestif est visible avec ses 6 paires de cécum gastrique. Ces larves se fixent par leur ventouse postérieure 10 jours après la ponte. Un peu plus tard, elles quittent leurs parents pour prendre un premier repas. Mais, fait curieux, sur une autre sangsue, ici Herpobdella, nourriture bien différente de celle de l'adulte, qui, rappelons-le, parasite les gastéropodes. Helopdella protège plus efficacement encore sa ponte. En effet, elle dépose ses quelques 20 œufs en moyenne dans une dépression de sa face ventrale et les véhicule ainsi. Ces jeunes, maintenant plus âgés, ne vont pas tarder à mener une vie indépendante. Tous ces soins apportés aux œufs et aux jeunes sont indispensables à leur bon développement et, séparés de leurs parents, ils périssent rapidement. Ce comportement exceptionnel n'existe que chez les Glossiphoniidés. Il est unique chez les Clitellates. La connaissance de la biologie de ces Iridinés les plus représentatifs de la faune européenne est indispensable à une meilleure compréhension de leur physiologie et permet de mieux saisir les nombreuses dépendances existant à l'intérieur des biocénoses, du milieu d'eau douce en particulier, où les sangsues peuvent former une des biomasses les plus élevées de la productivité secondaire.